prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Gaëlle Legube, je suis chercheuse en biologie moléculaire, directrice de recherche au CNRS, au Centre de biologie intégrative à Toulouse, où j'anime une équipe de recherche d'une quinzaine de personnes. J'ai été récompensée par la Fondation Simone et Sino Del Duca, qui m'a attribué en 2019 le prix de cancérologie, décerné à l'Académie des sciences. Aujourd'hui, je vais vous parler de chromatine et de réparation de l'ADN. L'ADN, c'est cette longue molécule qui constitue nos chromosomes et qui code pour l'information génétique. On dit qu'elle porte l'information génétique parce que des petits segments de cette longue molécule, qu'on appelle les gènes, possèdent la propriété d'être littéralement lus par une grosse machine moléculaire, la machinerie de transcription. Cette machinerie de transcription recopie la séquence d'ADN de ces gènes pour former des ARN, qui à leur tour seront traduits en protéines qui constituent les briques du vivant et permettent toutes les fonctions des cellules. Cette molécule peut malheureusement être endommagée. Par exemple, les lues ultraviolets, la lumière du soleil, peut conduire à des lésions sur l'ADN. Ces lésions peuvent par exemple bloquer les processus moléculaires qui se déroulent sur l'ADN, comme la transcription que j'ai mentionnée précédemment. Pire, elles peuvent conduire à des changements de la séquence d'ADN, ce qu'on appelle des mutations. Parmi toutes ces lésions qui peuvent endommager l'ADN, les plus dangereuses sont celles qui coupent littéralement la molécule d'ADN en deux, qu'on appelle des cassures double brin. Cela peut conduire à la perte d'un bout de chromosome ou encore à des mutations ou des réarrangements des chromosomes, comme les translocations, qui surviennent lorsque deux fragments de chromosomes se retrouvent anormalement rejoints entre eux. On conçoit alors facilement que ces cassures soient si dangereuses. Elles peuvent conduire à la mort de la cellule ou encore à une dérégulation de sa capacité de prolifération, qui peut ensuite conduire à l'apparition et au développement des tumeurs. Ces cassures double brin peuvent être causées par des radiations ionisantes, par exemple. Elles sont aussi provoquées lors des chimiothérapies, le principe même de nombreuses chimiothérapies étant d'endommager l'ADN pour tuer les cellules cancéreuses. Cela étant dit, elles peuvent aussi survenir naturellement dans nos cellules, par exemple pendant la réplication, qui est le processus qui conduit à la duplication des chromosomes avant la division cellulaire, ou encore suite à l'activation de la transcription de certains gènes. Des études très récentes ont pu montrer qu'en réalité, elles survenaient à une fréquence beaucoup plus élevée qu'on le pensait, essentiellement sur les gènes en cours de transcription. C'est le cas par exemple dans des neurones soumis à une stimulation et même dans le cerveau des souris soumis à des tests d'apprentissage. Heureusement, nos cellules possèdent des machineries moléculaires qui permettent de réparer ces cassures double brin avec une grande efficacité. Il existe deux grands mécanismes de réparation de ces cassures. L'un, que l'on appelle la jonction des extrémités non homologues, rejoint directement les deux bouts entre eux. L'autre mécanisme, que l'on appelle la recombinaison homologue, est plus sophistiqué et utilise une des copies du chromosome endommagé comme matrice. En effet, chacun de nos chromosomes est présent en double, une copie du père, une copie de la mère. Et suite à la réplication, chacune de ces deux copies est à nouveau dédoublée pour donner deux copies de chaque chromosome que l'on appelle les chromatides sœurs. La recombinaison utilise l'une de ces copies, le plus souvent la chromatide sœur, qu'elle utilise comme modèle pour réparer la séquence endommagée. Ces deux mécanismes, la recombinaison et la jonction des extrémités non homologues, ne sont pas équivalents. La NHEJ, la jonction des extrémités non homologues, est plus rapide, moins consommatrice en énergie, mais elle peut conduire à des mutations. La recombinaison est, elle, très fidèle, mais elle est plus lente et très gourmande en énergie. Aujourd'hui, on comprend encore assez mal dans quel cas la cellule opte pour la recombinaison ou pour la jonction des extrémités non homologues. Pourtant, ce choix est extrêmement important car il ne conduit pas aux mêmes cicatrices sur la séquence d'ADN. Maintenant, pour complexifier encore ces mécanismes bien compliqués, il est important de savoir que l'ADN ne se présente pas sous une forme nue dans nos cellules, mais associé à de très nombreuses protéines pour former une structure incroyablement complexe que l'on appelle la chromatine. Ces protéines, les histones, forment des petites billes autour desquelles s'enroule l'ADN pour constituer ce que l'on appelle des nucléosomes. Cette fibre de chromatine ressemble en fait à un collier de perles, où chaque perle serait un nucléosome. Puis ce collier de perles, c'est-à-dire la fibre de chromatine, peut à nouveau se replier sur lui-même, former des boucles, des nœuds, grâce à des protéines qui peuvent tordre, plier et structurer l'ADN en trois dimensions. Cette structure, elle permet de compacter l'ADN afin que les 2 mètres d'ADN qui constituent notre génome puissent rentrer dans le noyau de nos cellules qui ne fait qu'une petite dizaine de micromètres de diamètre. Mais cette chromatine, elle a également une autre fonction absolument essentielle et fondamentale. Elle porte l'information épigénétique. Cette information, c'est ce qui permet aux différentes cellules de notre corps humain, les neurones, les cellules musculaires, les cellules de la peau, etc., d'être justement différentes, alors qu'elles possèdent strictement la même information génétique, les mêmes chromosomes. En fait, cette information épigénétique, elle va permettre d'empêcher la lecture, c'est-à-dire la transcription, de certains gènes le long des chromosomes, tout en favorisant la lecture d'autres gènes, ce qui va conduire chaque type cellulaire de l'organisme à produire un ensemble de protéines différentes qui lui confèrent leurs fonctions. Cette information épigénétique est portée pour une grande part par des modifications qui surviennent sur les histones des nucléosomes, c'est-à-dire les perles de ce collier, et qui va les rendre plus ou moins accrochées, stables sur l'ADN, plus ou moins espacées, etc. C'est en grande part cette chromatine qui va donc dicter et donner l'information à la cellule si tel ou tel gène, tel ou tel endroit du chromosome doit être actif, c'est-à-dire recopié en ARN, ou s'il doit être inactif. On comprend plutôt bien aujourd'hui comment la chromatine régule la transcription. Par contre, on comprend très mal comment elle influence la réparation de l'ADN, et plus particulièrement, la réparation des cassures double brin. Au laboratoire, c'est cette question que l'on a décidé d'étudier, et ce, depuis une petite dizaine d'années. Et afin d'étudier cela, on a développé un système cellulaire original qui nous permet de provoquer des cassures double brin à des endroits spécifiques, connus sur les chromosomes humains. En effet, les scientifiques qui essayent de comprendre comment sont réparées les cassures double brin utilisent généralement des drogues dites génotoxiques ou des radiations pour endommager le génome. Mais le problème, c'est que ces méthodes provoquent des cassures de façon aléatoire sur les chromosomes et donc de façon non homogène dans toutes les cellules de la population cellulaire que l'on étudie. Cela empêche d'étudier la chromatine puisque premièrement, on ne sait pas où surviennent ces cassures le long du chromosome, donc la nature de leur chromatine. Et deuxièmement, cela empêche de travailler sur une population cellulaire, ce qui est pourtant essentiel pour utiliser les techniques d'étude de la chromatine. Nous avons alors utilisé une enzyme de restriction, qui sont ces protéines présentes chez des bactéries qui possèdent l'étonnante capacité de reconnaître une séquence particulière de l'ADN et de la casser à cet endroit. Évidemment, exprimer une enzyme de restriction dans des cellules humaines en culture est très toxique et conduit rapidement à la mort de ces cellules dont l'ADN se retrouve gravement fragmenté. L'astuce ici a été de fusionner cette enzyme à un petit module qui permet d'en contrôler la localisation au sein de la cellule. En condition de culture cellulaire normale, ce module séquestre la protéine de fusion dans le cytoplasme des cellules. L'ADN, qui se trouve dans le noyau des cellules, est alors protégé. Après rajout d'une petite drogue dans le milieu de culture, le 4-hydroxytamoxifène, ce module conduit à la relocalisation de la protéine de fusion dans le noyau, L'enzyme de restriction a alors accès à l'ADN qu'elle peut endommager à des endroits très précis et connus. Ce système cellulaire, que l'on a nommé DIVA, nous permet d'induire sur les chromosomes humains une centaine de cassures à des endroits connus et annotés des chromosomes, et qui présentent des caractéristiques chromatiniennes, c'est-à-dire un type de chromatine, différentes. Ce système permet ainsi aux scientifiques d'étudier la réparation des cassures double brin lorsqu'elles surviennent à des endroits précis sur nos chromosomes. Par exemple, nous pouvons comparer ce qu'il se passe lorsqu'un gène est endommagé par rapport à ce qu'il se passe sur une séquence intergénique, c'est-à-dire entre deux gènes. Grâce à ce système cellulaire, François Aymard, alors en thèse dans mon laboratoire, a pu réaliser la cartographie de protéines impliquées dans chacune des deux voies de réparation que j'ai mentionnées précédemment, la recombinaison homologue et la jonction des extrémités non homologues. Pour cela, il a réalisé des expériences dites d'immunoprécipitation de la chromatine, suivies de séquençage à haut débit, qui permet en gros de dépeindre la distribution de telle ou telle protéine sur le génome. Cela nous a permis de démontrer que lorsqu'une cassure avait lieu dans un gène actif, elle était capable de recruter les protéines impliquées dans la recombinaison. Et cette capacité de ces cassures sur les gènes actifs à attirer la machinerie de recombinaison homologue s'effectue grâce à une marque de la chromatine que l'on retrouve très spécifiquement sur les gènes en cours d'activité. En revanche, lorsque la cassure a lieu en dehors d'un gène actif, c'est-à-dire soit dans un gène inactif ou dans une séquence intergénique entre deux gènes, elle ne peut pas ou moins recruter ces facteurs de la recombinaison. En d'autres termes, nous avons pu démontrer que les gènes actifs qui sont transcrits, donc utiles à la cellule considérée, utilisent la voie de réparation la plus fidèle, bien qu'énergivore, lorsqu'ils sont endommagés. Nous avons pu ensuite démontrer, en collaboration avec l'équipe du Dr Fraser à Cambridge, et grâce au travail conjoint d'Emmanuel Guillou et François Aymard, alors en post-doctorat, ainsi que notre bioinformaticienne Marion Aguirre-Bengoa, que ces cassures sur des gènes actifs possèdent aussi l'étonnante propriété de se regrouper ensemble dans le noyau. Ceci est très étrange, car mettre à proximité deux cassures double brin sur deux chromosomes différents au même endroit pourrait potentiellement conduire à augmenter leur chance de transloquer, c'est-à-dire à former des chromosomes réarrangés ou chimériques qui sont très toxiques et peuvent conduire à l'apparition des tumeurs. La fonction de ce regroupement des cassures reste aujourd'hui un mystère que l'on essaye de comprendre au laboratoire, car cela pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui conduit aux translocations. Dans l'ensemble, nos travaux indiquent que les cassures double brin qui sont produites dans les gènes actifs adoptent ainsi un comportement particulier, qui, on le pense, contribue à s'assurer que leur réparation est fidèle et non mutagène. Il nous faut à présent continuer à caractériser cette voie de réparation particulière. En effet, comme je vous l'ai dit précédemment, les gènes actifs sont parmi les régions les plus fragiles de nos chromosomes. Il est donc essentiel de comprendre comment ils sont réparés. Cela nous aidera non seulement à mieux comprendre l'origine des translocations, des tumeurs, mais aussi potentiellement d'optimiser les chimiothérapies. J'aimerais maintenant terminer par quelques considérations générales sur l'importance de la recherche fondamentale. Les travaux que je vous ai présentés aujourd'hui ont mobilisé de nombreuses personnes, étudiants en thèse, postdoctorants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, dans mon équipe et ailleurs en France et dans le monde. La recherche fondamentale coûte cher et elle a besoin pour fonctionner du soutien des pouvoirs publics. Dans notre société, qui doit faire face à de nombreuses crises, montée des inégalités, manque de financement dans nos écoles, nos hôpitaux, crise environnementale, sociale et sanitaire, il est tentant de considérer finalement comme superflu le financement de la recherche fondamentale. Et pourtant, c'est bien elle qui a permis les avancées spectaculaires de la médecine au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle. Les associations caritatives, comme la Ligue contre le cancer, que je salue au passage pour leur soutien à mon équipe, l'ont bien compris, comme le prouve leur engagement à financer, par exemple, les étudiants en thèse et les postdoctorants. C'est bien ce qu'il se passe aujourd'hui dans les laboratoires de recherche fondamentale des sciences du vivant, de la matière, des sciences sociales et humaines, qui patiemment prépare le terrain pour demain. Au-delà des programmes de recherche prestigieux, entre guillemets, ou ayant des retombées à court terme, des retours rapides sur investissement, c'est la recherche fondamentale qui, petit à petit, collectivement, conduit à l'accumulation de nos connaissances qui permettront d'inventer, souvent de façon inattendue, les solutions aux défis qui nous attendent. Comme par exemple, concevoir des nouveaux traitements pour combattre le cancer, les virus, les infections bactériennes. C'est cette quête de la compréhension du vivant, de la matière, de nos sociétés et de nos comportements qui pavent la route pour notre société de demain.